France Culture.
Il suffit de regarder pour comprendre notre colère, comprendre la beauté. Regardez et sentir la mer, le vent, les falaises.
Transition énergétique, éteindre un feu hors de contrôle. Une série documentaire de Tao Favre, réalisée par Gaël Gillon. Épisode 3, se réapproprier l'énergie.
Regardez un peu plus loin, à votre droite.
Il y a le centre
de retraitement là-bas. Et à votre gauche, l'EPR de Flamanville avec les deux réacteurs. Et au milieu, vous avez la beauté. Vous avez la mer. Et au milieu, il y a nous. Ce qui est terrible, c'est que dans la beauté, il y a encore le mal. C'est-à-dire que dans la mer, il y a encore un tuyau qui rejette juste en face. Il y a un tuyau qui rejette des rejets, les plus grands rejets au monde, de tritium par exemple. Même la beauté, il l'abîme juste devant nous. Il faut aussi en avoir conscience. C'est un peu les rejets, c'est l'angle mort aussi de l'usine de la Hague. Il y a nous au milieu qui n'en voulons pas plus parce qu'il y a déjà assez, trop. Leur nouveau projet à Val du Futur, c'est toujours plus. 3 nouvelles piscines de stockage de déchets nucléaires, une nouvelle usine de retraitement, une usine de production de box et la prolongation de l'usine actuelle au-delà de 2040. On nous annonce des dizaines d'années de chantiers de terre accaparés pour être bétonnés. Des dizaines de milliards dépensés, des milliers de tonnes de déchets radioactifs en plus.
Depuis Arreau, le camp d'été de celles et ceux qui s'opposent à ce projet, on ne peut pas rater, au-dessus de la Manche, cet ensemble de bâtiments rectangulaires et leurs longues cheminées. Au milieu de la bruyère, l'image triste et banale du monde industriel. Mais cette usine-là est le lieu d'une des plus grandes concentrations de matières radioactives au monde. Gérée par le groupe Orano, ex-Areva, elle sépare les divers éléments du combustible nucléaire usé dans l'optique de leur réutilisation et entrepose les déchets qui en résultent. Construite à partir des années 60 dans un Cotentin encore paysan, l'usine de La Hague et ses piscines de refroidissement sont pleines aujourd'hui de ces matières radioactives. Et c'est d'abord pour parer à cet engorgement que le projet Aval du futur est envisagé. Un projet colossal qui s'inscrit dans un plan de relance massif du nucléaire, notamment la construction de 6 EPR2 pour au moins 100 milliards et potentiellement 8 de plus qui sont à l'étude, le grand carénage des réacteurs actuels pour prolonger leur durée de fonctionnement, environ 100 milliards, l'enfouissement des déchets à vie longue au centre de stockage de Bure dans la Meuse, 37 milliards. Après Fukushima, pourtant, le nucléaire, qui ne représente que 17% de notre consommation d'énergie, semblait devenu obsolète. Mais l'électrification des usages et l'objectif de neutralité carbone en 2050 impulsent le retour en grâce et sous la taxonomie verte européenne de cette énergie et de ses concepts fondateurs. Yves Marignac est expert nucléaire et porte-parole de l'association Negawatt.
On retrouve en fait des briques de l'imaginaire liées au nucléaire qui se sont construites dans les années 50, 60, 70 et qui n'ont pas été traduites dans les faits. À commencer par la promesse d'un déploiement massif du nucléaire qui serait, c'était les mots des conseillers de Eisenhower dans les années 50, « too cheap to meter », c'est-à-dire que cette électricité serait tellement peu chère à produire que ça vaudrait plus le coup de mesurer pour facturer. Et c'est la base du discours d'Eisenhower, Atoms for Peace, il y a un peu plus de 70 ans maintenant. Et ce discours vient au moment où on prend conscience du risque lié à la finitude des ressources fossiles. Et donc c'est la promesse de l'abondance par le développement du nucléaire, 70 ans après la première électricité nucléaire injectée sur le réseau, le nucléaire n'a jamais fourni plus de 3% de l'énergie consommée dans le monde. Donc cette, voilà, cette promesse-là, pour commencer, ne s'est pas matérialisée. Si on se rapproche de la situation française, il y a cette promesse des années 70 d'une électricité extrêmement compétitive grâce au nucléaire, qui est censée soutenir l'industrie française, apporter de l'électricité pas chère aux ménages. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, en particulier du point de vue de l'industrialisation, la France a échoué à maintenir son industrie, là où des pays voisins qui n'avaient pas de nucléaire ou qui ont fait le choix d'en sortir ont mieux réussi de ce point de vue. Donc là aussi, c'est des fantasmes et des promesses qui n'ont pas été tenues. Et puis l'idée aujourd'hui que la relance du nucléaire est clé, par exemple, pour réindustrialiser la France est absurde en regard des prix respectifs de nouveaux réacteurs nucléaires et de projets de centrales photovoltaïques ou éoliennes qui coûtent 3 à 5 fois moins cher. Mais le mythe perdure. Et puis il y a un élément fondamental dans ce mythe originel qu'on pensait un peu disparu, c'est l'idée, dans le sens de l'abondance, d'un recyclage à l'infini des matières nucléaires, qu'on a appelé en France les surgénérateurs, qui seraient capables, en étant alimentés par du plutonium, de générer à partir d'uranium appauvri encore plus de plutonium, et donc de s'alimenter en ressources énergétiques tout en produisant de l'énergie.
Si à La Hague, aujourd'hui, 90 tonnes de plutonium sont stockées, c'est que le concept de la surgénération a revêtu chez nous une importance particulière. Dans le contexte de la décolonisation, projetant un très fort développement du nucléaire mondial et mesurant les limites des ressources en uranium françaises, les élites s'inquiètent de la perte de souveraineté. Le retraitement du combustible irradié pour en extraire du plutonium vise à constituer une mine nationale pour garantir l'indépendance énergétique. La France est ainsi, dans les années 60, l'un des rares pays à s'engager dans la voie du retraitement. Ange Potin est chercheur en philosophie des techniques.
Cette idée d'un nucléaire en cycle fermé, d'un nucléaire surgénéré, donc ça c'est le concept qui était employé à l'époque, l'idée qu'on pourrait produire plus de matière énergétique qu'on en consomme à terme, eh bien elle va servir d'horizon régulateur, d'horizon planificateur pour une industrie nucléaire qui commence en France au milieu des années 60 à se mettre en voie de marche. Et ça c'est quelque chose qu'on voit se mettre en place. Moi, j'ai étudié toute une série de rapports des années 1970 qui avancent cette idée que, à partir de l'an 2000, on pourra atteindre à l'autarcie énergétique complète, qui parachève l'idée d'indépendance nationale qui a motivé, évidemment, le déploiement de l'électronucléaire en France. Et en même temps, à partir de la deuxième moitié des années 70, cette idée de nucléaire en cycle fermé, elle a servi également, dans un deuxième temps, à répondre aux critiques qui étaient faites à l'électronucléaire, de faire se proliférer à la fois les déchets radioactifs dangereux et les matières potentiellement utilisables pour faire des bombes. Donc l'idée de cycle du combustible fermé a également été utilisée par des acteurs industriels très importants pour justifier le nucléaire dans les arènes internationales et aussi contre les critiques écologiques. Ça a été employé dans un deuxième temps et je pense que c'est tout cet ensemble de facteurs-là qui permettent de comprendre pourquoi la France, parce qu'il y a aussi quelque chose de typiquement français dans cette histoire-là, la France s'est mise sur la voie de ce dit cycle fermé, en construisant notamment donc, l'usine de retraitement de La Hague dans le Cotentin, qui est la plus grande usine de ce type encore en fonctionnement au monde, qui est une usine de 3 km de long, juchée dans les magnifiques paysages de la presqu'île du Cotentin, et qui produit énormément de résidus radioactifs, via la justification officielle de limiter le nombre de déchets, de réutiliser le maximum de matière, l'usine de La Hague produit énormément de résidus radioactifs sous la forme d'effluents chimiques qu'il faut recycler, ça fait des boues radioactives, sous la forme d'éléments de combustible qui sont séparés, etc., etc. Et sous la forme d'installations qui seront très compliquées à démanteler le jour où on s'y mettra. Voilà. Le fait est que quand je finissais ma thèse Et on pouvait penser que l'idée de cycle fermé avait vraiment du plomb dans l'aile et que c'était pensable qu'à partir de 2040, on arrête l'activité du retraitement à l'usine de La Hague. Eh bien, encore une fois, rebond de l'histoire, en février-mars 2024, le Conseil spécial de politique nucléaire, qui est une institution très fermée, formée d'un petit groupe très élyséenne, eh bien, a annoncé que, eh bien, en France, on continuerait à faire du retraitement jusqu'en 2100. Ce qui prend maintenant la forme du projet qui s'appelle l'aval du futur. Voilà. Bon, l'aval, c'est l'endroit de la gestion des déchets ultimes et de du retraitement, de la récupération de ce qui sort des réacteurs nucléaires. Et donc, ce projet de l'aval du futur, eh bien, vise à garantir le fait qu'on pourrait faire du retraitement jusqu'en 2100. Et pour ça, ça nécessiterait de construire l'équivalent de au moins le double de ce qui existe déjà. Quoi.
Vous l'avez vu, la construction de l'usine de La Hague ?
Absolument, j'ai connu les landes vides, comme un paysage sauvage, et qui ont été investis par l'usine. Et en fin de compte, ils avaient fait croire aux gens du pays que c'était une usine de casseroles. Et effectivement, ils avaient collé une sacrée casserole aux fesses. La Hague est un pays maudit maintenant.
Vous vous en souvenez de la construction ? Vous vous en souvenez ?
Oui, un peu. La construction, bien sûr, à l'époque... Les indigènes, les gens du coin, n'avaient pas pris conscience de l'importance que ça allait avoir. Le nucléaire a colonisé le pays. Colonisé. Et tout le monde est coincé. Quoi. C'est un combat à la Don Quichotte. Don Quichotte.
À La Hague, la transition énergétique donne l'impression de répéter l'histoire, charriant les mêmes espoirs qui ont porté les débuts du nucléaire. Pourtant, 60 ans après la construction de l'usine, ce n'est qu'une dizaine de surgénérateurs qui ont vu le jour dans le monde, et aucun n'a fait la preuve d'un fonctionnement pérenne. Deux seulement sont encore en service. Sur les 300 hectares du site, les matières radioactives officiellement considérées comme valorisables s'accumulent. Mais en réalité, seule une très faible partie du combustible retraité est réemployée, notamment dans un nouveau combustible appelé MOX. La question qui se pose alors devient celle de la gestion d'une immense quantité de déchets. Si l'énergie est un lieu de fantasme, le nucléaire en est l'épicentre, un mythe dont la résistance aux faits est à la mesure de son enracinement.
J'avais fait un entretien avec un ancien du commissariat à l'énergie atomique, un très vieux monsieur qui était en fait un des derniers à être entré dans les années 1950, à avoir fait la première génération d'ingénieurs du commissariat à l'énergie atomique. Et quand il m'avait parlé de la surgénération, il m'a dit cette chose incroyable, il m'a dit « Bah voilà, avec le nucléaire, on ouvrait un monde nouveau dans lequel on allait enfin pouvoir utiliser la matière elle-même, alors que jusque-là, on n'avait fait que la brûler. » Et il avait ajouté « Et ça, combien d'années après avoir monté le feu, faut le faire quand même ?»
L'industrie nucléaire vante les mérites du combustible MOX, soi-disant issu du retraitement. Mais rappelons-le encore et encore, seuls 1% des déchets nucléaires sont retraités. Des déchets nucléaires dont il n'existe aucune solution durable sont l'angle mort, le silence honteux de l'industrie nucléaire. Les déchets nucléaires sont l'un des plus grands défis environnementaux du 21e siècle. Une gestion chaotique et une opacité totale entourent ces matières nucléaires. Et dangereuses, les solutions proposées par l'État et l'industrie, comme le stockage géologique profond, ne sont rien d'autre qu'une fuite en avant, une tentative d'enfouir le problème sous terre pour des milliers d'années. Mais à quel prix ? Une fois de plus, ces projets sont imposés aux populations locales, décidés par des hommes politiques et technocrates. Mais qui, aujourd'hui, dans un contexte de dérèglement climatique, de guerre, de montée du fascisme, a envie d'accueillir le plus grand chantier nucléaire au monde ? Ce projet aval du futur, c'est le monopole de la filière nucléaire sur toute la région. C'est une mainmise au détriment d'autres envies, d'autres besoins, d'autres futurs, d'autres énergies, d'autres manières d'habiter ici. Nous ne voulons pas de vos projets, nous ne voulons pas de votre béton, nous ne voulons pas de vos aménagements qui condamnent le Cotentin à n'être qu'une décharge nucléaire. Bravo !
Son mythe évacué, le nucléaire apparaît dans ses différentes contradictions. Celle d'abord d'une industrie qui met en avant l'idée de la souveraineté énergétique, mais qui repose sur l'extraction d'uranium à l'étranger, Kazakhstan, Canada, Namibie, selon la logique propre aux mines industrielles, celle ensuite de la gestion des déchets et de l'aval du cycle dans son ensemble, dont le coût a toujours été sous-estimé, EDF mettant ainsi en avant les prix compétitifs de son électricité. Contradiction enfin, liée à la matérialité d'une industrie lourde, usée, et d'autant plus dangereuse dans un futur qui s'annonce contraint, tant en termes budgétaires que d'accès aux ressources.
Le nucléaire pose des questions de qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures dont on hérite, qui ont été mises en place dans une période de croissance économique et matérielle absolument formidable de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-Seconde Guerre mondiale en Europe. Et en fait, là, on est dans une situation qui est extrêmement intéressante et aussi très inquiétante et chargée de beaucoup d'enjeux politiques qui sont pas suffisamment travaillés et explicités dans le débat public, qui est que on appelle à une relance, encore une fois entre guillemets, de l'industrie nucléaire pour lutter contre le changement climatique, à une époque où l'infrastructure nucléaire qu'on utilise aujourd'hui est en train de donner de sérieux signes de faiblesse et est en train d'arriver en fin de vie. Donc il y a cette situation, de tension sur laquelle on travaille, avec mes collègues qui travaillent sur le nucléaire, relance et héritage. Qu'est-ce que ça veut dire de relancer alors qu'on hérite d'une infrastructure qui est immense et qui pose tout un ensemble de problèmes de vieillissement. Bon, il y a eu l'affaire des corrosions sous contrainte sur le parc nucléaire français en 2022 qui a nécessité de mettre à l'arrêt une partie importante du parc nucléaire pour remplacer des tuyauteries. Et de manière générale, il y a aussi la question du démantèlement des installations. Moi, je travaille en ce moment, j'ai fait une enquête sur le démantèlement des réacteurs graphite-gaz, qui sont ce qu'on appelle la première génération de réacteurs en France. Il s'agit de 9 réacteurs qui ont été installés dans les années 50-60, en fait, pour lesquels le démantèlement n'a jamais été pris en compte à la conception. Et aujourd'hui, c'est des espèces de grandes ruines, des bunkers de 50-60 mètres de haut, qui contiennent des milliers de tonnes de graphite irradié, dont on ne sait pas quoi faire. En fait, qui posent beaucoup de questions de... à comment extraire ce graphite irradié de sa grosse boîte en béton, c'est très compliqué à faire. Et ensuite, quand on l'aura extrait, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on le stocke? Est-ce qu'il faut aller le stocker à plusieurs centaines de mètres sous terre, mais c'est extrêmement coûteux? Est-ce qu'on peut le stocker en surface? Oui, mais c'est peut-être risqué, etc. Et en fait, ça pose tout un ensemble de questions qui ne sont pas résolues, qui sont des questions ouvertes, qui habitent le problème du démantèlement et de cette infrastructure vieillissante.
Au concept de bien commun, l'infrastructure nucléaire qu'il faut aujourd'hui démanteler oppose celui de commun négatif, dont le coût de la gestion non véritablement chiffré est et sera assumé par la collectivité. C'est dans ce contexte, et avant tout débat parlementaire, qu'a été décidée la relance de cette industrie, qui aujourd'hui se répercute sur le développement des énergies renouvelables, en retard par rapport aux autres pays européens. En France, le renouvelable ne représente que 28% du mix électrique. C'est 89% au Danemark, 76% au Portugal. Une orientation, par ailleurs, lourde de conséquences sur le réseau électrique que l'électrification des usages oblige à rénover et à repenser. Un chantier colossal en perspective pour lequel RTE, le gestionnaire du transport d'électricité, prépare une enveloppe d'une centaine de milliards.
Le choix d'une relance du nucléaire ou pas engage
Yves Marignac.
Ces formes géographiques, sociales, économiques liées à la structure du système électrique et énergétique pour quasiment à l'échelle du siècle. Et effectivement, un système dans lequel on maintient du nucléaire sous sa forme actuelle versus un système dans lequel on projette un fonctionnement fondé sur la maîtrise de la demande et sur les énergies renouvelables, en fait, dessine des paysages sociétaux fondamentalement différent. La relation des acteurs dans les territoires, politiquement, économiquement, des citoyens à la question énergétique est différente par nature dans ces deux projections. Et le fonctionnement même du système, entre un système hyper centralisé autour du nucléaire ou un système qui peut être extrêmement décentralisé avec les renouvelables, est par nature très différent. En fait, les systèmes électriques actuels dans le monde ont été construits autour de centrales thermiques pilotables, fonctionnant pour l'essentiel aux énergies fossiles. La situation française avec cette part importante, jusqu'à 75% historiquement de notre production d'électricité liée aux centrales nucléaires. C'est une exception dans le monde. Et ça a conduit à un système encore plus centralisé que dans d'autres pays. Et dans ce système, faire pénétrer les renouvelables, avec la variabilité de leur production, avec leur caractère décentralisé, c'est en fait encore plus compliqué que dans un système dominé par les centrales thermiques. En fait, on se cache collectivement, on ne veut pas voir la question de l'incompatibilité fondamentale entre ces deux orientations. La forme très centralisée, non seulement du réseau, mais de l'organisation industrielle avec EDF en quasi-monopole de production, voilà, de l'ensemble de la gouvernance et du système de décision, rend d'autant plus difficile l'émergence d'un système beaucoup plus décentralisé, avec des acteurs qui se saisissent localement de projets renouvelables, d'actions de maîtrise de la demande, etc. Et on voit d'ailleurs que les pays où les renouvelables se développent le plus vite et où le système énergétique se transforme le plus vite sont souvent des pays dont la structure politique est beaucoup plus fédérale et décentralisée.
Qu'elle repose sur le nucléaire ou les renouvelables, la consommation de l'électricité stagne aujourd'hui en France comme en Europe. L'électrification des usages peine à être réalisée, l'électricité restant peu compétitive face aux énergies fossiles. La transition énergétique, en outre, fait face à différentes crises, celle des services publics, celle de la montée en puissance des conservatismes et de populations qui revendiquent l'usage effréné d'énergies fossiles, et bien sûr celle du climat qui nous fait entrer dans un monde instable dans lequel les infrastructures deviennent de plus en plus vulnérables. Décarbonation et sobriété forment un horizon qui semble cerné par les flammes. Et c'est peut-être un changement de notre rapport à l'énergie et à l'électricité en particulier qu'exige la situation, se les réapproprier à une échelle qui puisse donner sens au concept de souveraineté. Le seul fournisseur d'énergie à but non lucratif, peut-on lire sur un mur des locaux d'énergie de Nantes ? Avant de créer cette structure associative en 2021, Régis a travaillé une vingtaine d'années à EDF-GDF, puis Engie et GRDF.
C'est marrant parce que je rentre au moment de la tempête de 99. Et du coup, je vois une entreprise où, en fait, quand il y avait vraiment des difficultés sur le réseau, que le réseau tombe, qu'il y a la tempête, il y a vraiment cette notion de service public. C'est-à-dire que les gens prenaient sur leurs vacances, prenaient sur leur week-end pour aller réparer le réseau qui était tombé ailleurs. Je vois aussi une entreprise où il y a une certaine forme de solidarité vis-à-vis des gens qui étaient entièrement intégrés, avec vraiment tous les métiers qui étaient là, quoi, depuis la production jusqu'à la gestion des réseaux, jusqu'à la gestion des factures, les paiements, comment est-ce qu'on gérait les impayés, etc. Et j'ai assisté à quoi ? J'ai assisté à la séparation, à la division de tout ça. Donc on a séparé les activités, d'un côté les activités de réseau, d'un côté les activités de commercialisation, avec de la concurrence, du coup, qui s'est mis là-dedans, avec cette volonté qui venait de l'Europe de se dire « ça allait faire baisser les prix ». Je ne sais pas comment ça serait passé si ce n'était pas le cas, mais force est de constater aujourd'hui que les prix ils ont augmenté. Les prix de l'énergie ils ont quasiment monté deux fois plus vite que l'inflation. Et donc j'ai assisté à ça. J'ai assisté aussi à ces logiques de séparation, fusion, rachat. On laisse ce qui coûte cher au public, mais par contre ce qui rapporte, on le met au privé. Et notamment en étant plutôt dans la partie gaz de France, à la fusion avec Suez, quoi, qui a donné après Engie. Avec toute cette logique de concurrence interne, de management à certains endroits agressifs. Alors moi, je n'ai pas vécu que des mauvais moments, bien sûr, mais j'ai vécu vraiment une évolution de l'entreprise où on est passé de logique de public et de solidarité à une logique vraiment capitaliste, de profit. Et aussi avec une volonté de... Une des difficultés, notamment aujourd'hui, par rapport aux choix qu'on a à faire par rapport aux énergies, EDF est spécialisé dans l'électricité, Gaz de France, aujourd'hui, Engie, etc., est plutôt spécialisé dans le gaz. Il y a une certaine logique, en fait, d'enfermement, c'est-à-dire que c'est difficile de se sortir et de voir plus large que ça, de voir notamment des actions de sobriété ou quelle est la meilleure énergie, puisque chacun défend son précaré. Et derrière... Il y a des entreprises mères avec des actionnaires qui agissent pour pousser à ce que l'entreprise perdure, peu importe que ça soit utile pour le bien commun ou pas. L'important, c'est de pouvoir faire perdurer l'activité, quoi. Et en fait, c'est en 2019, via une enquête avec les habitantes de Nantes et de ses environs, que émerge l'idée de Énergie de Nantes. Et c'est au bout de 3 ans, quand le projet commence à devenir vraiment concret, que je fais le choix de quitter ces entreprises des industries électriques et gazières, hein, donc GRDF à l'époque pour moi, pour me consacrer pleinement à EDN, quoi. Donc il y a 3 ans.
Sur une rive de la Sèvre nantaise, au milieu des saules et des frênes, une ancienne filature en briques sur 3 étages surplombe le moulin d'Engrevier, acquis après une levée de fonds par Énergie de Nantes pour produire son électricité. Tout en bas, la salle des machines accuse le poids des ans, mais son entretien est assuré collectivement, notamment par Moira et Steffi, membres de l'association.
C'est même une turbine qui a 115 ans. Aujourd'hui, elle peut produire jusqu'à 30 kW et elle a été laissée à l'abandon pendant longtemps. Puisqu'en fait, les moulins, la plupart des moulins ont été abandonnés quand on a trouvé des sources de production qui produisaient davantage. Parce qu'en fait, ça reste des petites productions, c'est des toutes petites puissances. Et donc tout a été abandonné, mais sur la Sèvre nantaise, il y a plus de 140 moulins qui ont été en activité à un moment. Et l'idée, c'est aussi de faire avec notre territoire, de faire au plus proche. En fait, là, on est à peine 30 km de Nantes, c'est à un quart d'heure en train, donc c'est quelque chose de très accessible. Ça permet pour nous de venir entretenir facilement, etc. Et avec un objet qui est très mécanique. C'est pas électrique, c'est pas plein de matériaux complexes comme du photovoltaïque ou une centrale nucléaire. Voilà. En fait, moi, j'aime bien l'image que une turbine comme ça, c'est un peu comme un vélo classique. Alors qu'une centrale nucléaire, on est sur un SUV autonome. Donc le SUV autonome où tout est électrique et automatique, beaucoup plus compliqué à réparer et à s'approprier. Alors que le vélo, on a quelques clés Allen, on arrive à s'en sortir, quoi. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus réappropriable, et beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup plus palpable que quelque chose où on aurait besoin. Voilà, là pour réparer, il y a quand même une complexité, hein. Mais on peut s'en sortir avec des mécaniciens du coin.
Sur la Sèvre nantaise, il y a beaucoup de... À une époque, il y avait beaucoup de moulins. Et donc, il y en a beaucoup qui sont à l'abandon, malheureusement, aujourd'hui. Il y en avait 250 à peu près, on en a dénombré. Du coup, c'est un potentiel assez important si on réhabilitait, en fait, ces moulins, tout simplement. Et on n'aurait pas une grosse production sur chaque moulin, mais si on avait plein de petits moulins qui produisent un petit peu... Ça fait une production quand même assez importante.
François Jarige, historien.
Historiquement, par définition, ce qu'on appelle énergie était une question liée à l'utilisation de ressources communes par des communautés. Parce que l'énergie, c'était des ressources qui étaient locales et qui étaient mises en commun pour répondre à certains besoins sociaux. Et donc qui étaient régulées aussi collectivement. C'est-à-dire qu'un cours d'eau était réglé de façon communautaire. Parce que on ne peut pas installer trop de roues hydrauliques sur un même cours d'eau parce que ça ralentit le débit. Donc ceux qui sont en aval, ils n'ont plus assez d'énergie. Donc il faut collectivement décider de quelles ressources on utilisera. C'est pareil avec les forêts. C'est-à-dire que les forêts, l'utilisation des forêts doit être régulée collectivement comme un commun pour éviter l'épuisement trop rapide de la forêt. Donc à partir du moment où l'énergie devient une abstraction dans une logique purement extractiviste et quantitativiste pour répondre au système industriel productiviste, évidemment, l'énergie est appropriée par des intérêts privés. Donc cette question des communs énergétiques, c'est un défi gigantesque. C'est-à-dire comment refaire de l'énergie un commun, c'est-à-dire quelque chose qui soit régulé, approprié, de façon partagée. Et pas un monopole de l'État. Alors, mais en même temps, c'est déjà une question. C'est-à-dire, quand on a nationalisé l'électricité au milieu du XXe siècle, il s'agissait bien de faire de l'électricité un commun énergétique, avec l'État comme médiateur du commun ou comme régulateur du commun. Mais c'était la nationalisation des grands groupes énergétiques. Parce qu'avant 1939, l'électricité était produite par des compagnies privées qui se partageaient le marché un peu partout en France et par des acteurs privés aussi, localement. Donc là, il y a eu la nationalisation d'un groupe public. Donc c'est une modalité. Quand tu parles de commun, toi, je pense que tu parles aussi d'une question de relocalisation de l'échelle de la production et de la consommation énergétique. C'est pas juste à l'échelle étatique. Parce qu'en fait, ce qu'on a observé depuis le milieu du XXe siècle, c'est un changement d'échelle permanent des régulations énergétiques. C'est passé de l'échelle locale où était disponible la ressource, y compris avec les débuts de l'électricité. C'est-à-dire que l'électricité, on la produisait au départ avec des anciennes roues hydrauliques pour approvisionner le village et quelques habitants. À partir du moment où on a mis en place des grandes centrales thermiques, puis les centrales nucléaires, avec des grands systèmes d'approvisionnement de haute tension, on a produit l'électricité à un coin et puis on l'a redistribuée dans l'ensemble du territoire. Et là, du coup, les communs énergétiques ont disparu. Mais depuis 70 ans, on cesse d'avoir un changement d'échelle. Donc c'était l'État-nation après 45, puis ça a été l'Europe à partir des années 70-80, et d'une certaine manière aujourd'hui, c'est même de plus en plus des régulations à l'échelle globale. Il y a un marché international de l'énergie. Et évidemment, on voit bien que quand il y a une guerre comme l'Ukraine et avec la Russie d'Ukraine, ça rompt les approvisionnements globaux et les flux énergétiques, et ça pose des problèmes diplomatiques et géopolitiques majeurs. Tout ça pour dire que je pense que c'est compliqué cette affaire. C'est la question de l'échelle pertinente pour penser la production et la consommation d'énergie. C'est-à-dire comment est-ce que des communautés locales, des communautés de vie, peuvent se réapproprier leur rapport à l'énergie. Ben ça, c'est un défi gigantesque, parce que nos modes de vie métropolitains et urbains font qu'on est par définition désapproprié de l'énergie. Une métropole de 12 millions d'habitants ne peut pas avoir de gestion commune locale des ressources énergétiques. Ça ne peut reposer que sur des méga-productions acheminées de très loin via des macro-systèmes techniques et des grands réseaux de distribution. La technique est secondaire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on réinvente des modes de vie relocalisés, si on démantèle les grandes métropoles de la modernité pour considérer que l'échelle de vie acceptable, c'est par exemple des villes de 40 000 habitants avec des réseaux d'approvisionnement alimentaire de proximité, des systèmes de production énergétique cohérents, c'est pas le même monde en fait.
Fanny Lopez, historienne de l'architecture et des techniques.
La notion de grand système technique, elle vise justement à définir les caractéristiques d'un réseau de très très grande échelle ou de système technique de très très grande échelle. Donc des caractéristiques qui sont la centralisation, des systèmes d'expertise qui échappent grandement aux usagers, une forme aussi d'opacité dans les décisions, les prises de décisions sur la croissance ou le développement de la structure. La maille technique dont on hérite aujourd'hui, elle a une histoire qui n'a rien de neutre, qui est une histoire d'industriel, de politique, qui relève en partie d'une série d'opportunismes, de prises industrielles, de choix politiques, celui d'un fort centralisme, alors même que d'autres modèles existaient ou furent discutés. Donc une histoire progressive du développement de ces réseaux électriques. Au départ, on a une histoire très locale. Ensuite, elle devient régionale, nationale, avec la création d'EDF, où se pose la question de l'interconnexion entre les différentes régions. Donc, cette grande matrice qui se met en place et qui va encore ensuite se renforcer avec le projet nucléaire et la création des très grandes dorsales, les autoroutes de l'électricité, la très haute tension. Donc, le système électrique dont on hérite, il résulte aussi de ces choix technique mais aussi énergétique. Peut-être si on revient aussi à un moment historique qui me semble intéressant dans une histoire qui est une histoire récente, les énergies renouvelables, quand elles ont commencé à se déployer, ont très vite été ressaisies, on pourrait dire, il y a une sorte de verrouillage sociotechnique, puisqu'elles sont venues finalement renforcer le système centralisé, alors qu'elles apparaissaient comme des possibilités, des potentialités de repenser les réseaux, de penser peut-être des systèmes de production, mais aussi de distribution et de transport plus territoriaux, plus décentralisés, mais ça veut dire qu'il faut aussi penser la gouvernance avec tout ça, donc en fait c'est un immense chantier énergétique. Et donc, quand elles sont apparues, elles sont apparues un peu comme des variables de réajustement. Elles ont été ressaisies, finalement, par cette grande entité réseau avec toute la question de la flexibilité.
Régis.
Comment ça s'est passé, le développement des énergies renouvelables? C'est-à-dire qu'on est parti, fin des années 90, début des années 2000, par des petits développements portés plutôt par des personnes qui étaient engagées. Petit à petit, il y a eu des encouragements par l'État. Et on s'est retrouvé encouragé vers des phénomènes d'échelle. C'est-à-dire qu'au début, c'était intéressant de mettre du solaire sur son toit. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout. Et on pousse de plus en plus l'argent public vers une centralisation des moyens de production qui sont de plus en plus gros. On voit des fermes éoliennes offshore, en pleine mer, qui sont immenses et qui, du coup, permettent de concentrer des capitaux et donc à des entreprises de pouvoir se rémunérer dessus et de faire du profit. Bon, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait qu'augmenter la courbe de production, parce qu'en fait, on a toujours mis plus de besoins en place, en face. On n'arrive pas à réduire notre besoin, ces moyens de production supplémentaires, ça a juste répondu à des besoins supplémentaires. Le dernier à la mode en date, c'est quand même l'IA. On prévoit des postes sources entiers, voire des centrales nucléaires entières pour pouvoir alimenter les data centers qui vont alimenter l'IA. Et donc, du coup, nous, on arrive, en tout cas, moi, j'arrive avec ça, avec ce sentiment que la solution, elle est par les énergies renouvelables, mais que pour autant, ils font l'accompagner quelque chose, quoi. Et ce quelque chose, c'est probablement de retrouver le lien avec les besoins. Et c'est pour ça qu'on parle de commun. Parce que cette logique, soit on avait cette logique qui était privatisée, j'en ai déjà parlé, autour des profits où on va produire toujours plus, soit on a ces logiques d'État et de public qui auront tendance à centraliser aussi. Par contre, pour pouvoir impliquer les gens et faire en sorte qu'ils puissent avoir la main sur les énergies renouvelables, c'est là qu'on fait intervenir le commun. Puisque dans cette logique de commun, c'est par la contribution des gens qu'on peut répondre à un besoin, y compris sur des sujets très techniques comme ceux de l'énergie. Alors on n'est pas des prospectivistes avec une vision très établie. On a commencé par être fournisseur d'électricité parce que les énergies renouvelables électriques sont très accessibles et que c'est vraiment un besoin de base aujourd'hui chez les gens. Un jour, on fera d'autres choses. Peut-être qu'on fera d'autres énergies, peut-être qu'on fera du bois, peut-être qu'on ira sur des moyens de d'isoler les bâtiments. Enfin, on verra. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que par rapport à l'électricité, aujourd'hui, on a ce mouvement très électrificateur parce qu'on parle du véhicule électrique, on parle de l'IA, etc. En vrai, moi, je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Hein. Parce que le système électrique, il est extrêmement fragile. Il peut tomber, on l'a vu il y a quelques semaines là, en Espagne avec un blackout. Alors je ne me risquerai pas à l'analyser parce que c'est très long, c'est très complexe, etc. Mais on voit bien à quel point ça rend... Enfin, c'est sensible. Et que de plus en plus, on peut faire face à des difficultés avec des réseaux qui tombent dans un monde où on va être de plus en plus contraint en termes de ressources, quoi. À mon avis, l'avenir... La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on va redonner du pouvoir aux gens? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que, localement, dans nos villes, dans nos villages, on puisse faire par nous-mêmes, mais pas que sur l'énergie, hein, surtout, hein, sur l'alimentation, sur la santé, sur la mobilité, plutôt que d'avoir des méga-systèmes centralisés qui sont de fait fragiles, quoi. Donc quand je dis il y a renouvelable et renouvelable, on voit bien qu'il y a une différence extrêmement importante entre une ferme éolienne offshore qui va être porté par des grands groupes qui vont avoir envie de se faire de l'argent dessus, d'un moulin porté par une association avec des personnes qui s'impliquent, sans logique de profit, ni même de rentabilité. C'est-à-dire que le moulin, on a le temps avant de le rentabiliser. On voit bien qu'il y a une différence qui est quand même énorme entre ces deux visions du renouvelable-là, un monde très centralisé et finalement, je trouve, assez fragile, et un monde très distribué dans lequel on va avoir plein de petits outils de production sur lesquels on pourra s'appuyer et qu'on pourra entretenir par nous-mêmes.
Fanny Lopez.
Je pose la question de la restructuration et peut-être de cette opportunité, manquée ou pas encore totalement, de repenser la matrice, de repenser les configurations réseau. Mais on pourrait dire, ça peut peut-être juste être, commençons par là, un exercice intellectuel, un exercice d'imaginaire, de se dire ce serait quoi penser d'autres systèmes et d'autres modèles d'interconnexion, essayer de reterritorialiser, de respatialiser le génie électrique, parce que ces grands systèmes techniques aussi, ils ont été pensés dans une vision très aterritoriale, hein. Alors, j'ai rien contre les ingénieurs, mais c'est un modèle très macro qui vient se poser sur les territoires, qui gomme aussi beaucoup les spécificités locales, la pensée de la grande infrastructure et du grand réseau. Bah, en fait, voilà, c'est un projet national, hein, donc on n'est pas sur les spécificités locales. Donc comment arriver à retrouver un petit peu ces liens, à reterritorialiser le réseau électrique et à imaginer ce que pourraient être d'autres infrastructures réseau, d'autres architectures réseau, raisonner peut-être par bassin énergétique, penser des interconnexions, essayer aussi de se dire ce que pourrait être une pensée de l'intermittence et de la coupure. Hein. Aujourd'hui, on réfléchit à, on va devoir penser la coupure pour des réseaux d'eau. Hein. Donc en fait, la pensée de la pénurie, elle s'impose aujourd'hui dans les systèmes de pensée, dans les systèmes techniques. C'est quoi penser la coupure et l'intermittence pour les réseaux électriques? Est-ce que pour tel ou tel type d'activité, alors je pense pour les activités qui ne seraient pas des activités liées à la vie quotidienne, les hôpitaux, l'industrie, mais pour des activités peut-être secondaires, se dire que peut-être quand il n'y a pas, ou il faut peut-être qu'il y ait moins. Donc une pensée de l'intermittence, une pensée de la pénurie, est-ce que ça ne peut pas nous permettre aussi de venir décider ou imaginer d'autres infrastructures, imaginer aussi d'autres système de connexion, c'est-à-dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un grand réseau territorial, hein, quoi, qui soit un système de sécurité, de backup, et puis peut-être penser d'autres réseaux un peu plus locaux qui pourraient aussi être interconnectés entre eux. Et puis après se pose aussi la question de la gouvernance. Hein, si demain on avait un projet de loi qui permette aux régies communales de retrouver cette compétence, bah, qu'est-ce qui se passerait? Et là, on voit que c'est pas juste une question de gouvernance, et on va nous dire, ah, bah, c'est des questions économiques, parce qu'en fait, ces réseaux-là, ils coûtent extrêmement cher, les communes n'ont pas les épaules pour, évidemment, mais en fait, il y a plein de systèmes de financement qui seraient possibles pour penser ce que pourrait être un municipalisme électrique, un communalisme énergétique, moi, ce que j'appelle aussi un techno-régionalisme, donc arriver à penser les choses à des échelles plus territoriales, plus régionales, et avoir un peu, on va dire, l'audace de l'imagination, sortir de ces imaginaires qui sont extrêmement fixés, contrôlés par des réseaux, des systèmes d'experts, il n'y a pas d'alternative, c'est le modèle le plus économique, on ne peut pas faire autrement, etc., etc. Donc déjà, ouvrir la boîte des possibles et se dire que, bah oui, notre système technique électrique peut faire l'objet de tout un tas de spéculations et ce serait peut-être sain et souhaitable d'en faire. Alors oui, gérer l'hétérogénéité, penser et piloter ce qui pourrait être une diversité infrastructurelle, ben en fait c'est du temps, c'est peut-être un art de la lenteur, enfin, c'est beaucoup plus difficile en fait. Mais voilà, c'est aussi ça, sortir de l'homogénéisation à outrance, de la standardisation de nos systèmes techniques, qui sont aussi une des caractéristiques des grands réseaux, et voilà, prendre aussi le temps, sortir aussi peut-être de l'urgence, de la performance, de l'innovation, pour se poser ces questions qui sont finalement assez peu, voire jamais posées.
Mayora.
Aujourd'hui, les entreprises qui développent des éoliennes industrielles, donc des éoliennes de plus de 100 mètres de haut, généralement au moins 90 mètres, c'est généralement des entreprises qui sont portées par une pensée complètement capitaliste, qui veut faire toujours plus de production pour faire toujours plus d'argent. Et donc, qui n'est pas motivée particulièrement par des questions environnementales. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai trouvé une difficulté éthique. Parce que très concrètement, j'avais mes réunions de fin d'année, quand on faisait le bilan, on me parlait de croissance et comment faire plaisir à mes actionnaires, au lieu de me parler de transition énergétique et de réduction des consommations. C'est des entreprises qui ont tout intérêt à ce qu'on consomme toujours plus, comme ça elles pourront développer toujours plus de parcs. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à faire au local et territorial. Je pense que c'est ça aussi qui permet de se réapproprier nos lieux de vie, nos moyens de subsistance à notre échelle en fait. Et du coup, Énergie de Nantes, d'une part, s'intéresse à ces petits moyens de production locaux à travers les moulins, parce que c'est ce qui est pertinent ici. Peut-être que si on était Énergie de Marseille, on aurait plein de panneaux solaires, parce qu'on aurait une météo et un climat qui permet autre chose. Nous, on trouve qu'ici, c'est pertinent parce qu'il y a des moulins et qu'il pleut beaucoup et qu'il y a beaucoup d'eau. Mais donc déjà, il y a cette réflexion d'avoir des moyens locaux réappropriables, d'une part. Et il y a aussi une vision qui est beaucoup plus exhaustive, pour moi, plus complète, parce que ça ne s'intéresse pas juste à la production, contrairement à des grosses entreprises comme là où j'étais avant. Il y a aussi toute une réflexion sur comment lutter contre la précarité énergétique, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en aidant à la rénovation, à réfléchir à ses consommations, etc. Ça promeut un autre modèle de société où on se réapproprie en tant qu'usagère et usager de l'énergie ce domaine, en fait. Et du coup, c'est une vision qui, pour moi, est plus pertinente et déclinable à l'échelle de chaque territoire et qui permet de sortir l'énergie de quelque chose de technocrate et d'expert, parce qu'en fait, personne chez Énergie de Nantes n'est expert de moulins à la base. On apprend. Et en fait, on apprend en faisant, ensemble, en partageant des savoirs, en utilisant beaucoup de moyens d'éducation populaire pour apprendre, pour réparer nous-mêmes, etc. Et moi, c'est quelque chose que je trouve déjà vachement plus agréable et beaucoup plus humain et vachement pertinent.
François Jarige.
Une société qui reposerait sur l'énergie de l'eau, qui réactiverait les moulins pour répondre à des besoins locaux pour produire des choses, c'est une société qui consommerait très peu, qui accepterait la variabilité de la production au cours de l'année. Alors ça, c'est quelque chose qui a complètement été oublié, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est dans une société capitaliste qui repose sur la régularité, la capacité de mesure, d'anticipation de tout ce qui sera produit. Et c'est la force, évidemment, du choix du feu de permettre ça, quoi. C'est pour ça que quand je dis l'hydraulique, ça revient à chaque époque. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, quand on invente la houille blanche, c'est précisément parce qu'il y a un conflit autour de la combustion du charbon.
parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il faut en importer une partie d'Angleterre. Et donc, il y a certains acteurs qui veulent relancer l'hydraulique. Mais il y a des débats en interne chez ces acteurs pour savoir qu'est-ce que ça veut dire l'hydraulique. Est-ce que l'hydraulique, c'est mettre en place des barrages géants? Est-ce que ça veut dire domestiquer toutes les chutes d'eau des Alpes? Ou est-ce que l'hydraulique, c'est défendre un réseau dense et disséminé de petites structures productives? Mais qui veut dire des petites structures productives qui produisent peu, qui produisent de façon intermittente, à une époque où la massification de la production se met en place, quoi. Donc on est dans tous ces paradoxes. Et c'est ça, et c'est les paradoxes qu'on recouvre aujourd'hui. Parce que retrouver d'autres systèmes énergétiques aujourd'hui, en fait, ça veut dire que ces systèmes énergétiques ne doivent pas être pensés indépendamment des modes de vie et des organisations socio-économiques. Et le problème, c'est qu'on fait les choses inverses. C'est-à-dire qu'on met la technique en premier, alors qu'en fait, il faudrait transformer les organisations sociales. Et ensuite, réfléchir à quels besoins énergétiques en fonction des organisations sociales qu'on a en place. Et quand je dis les organisations sociales, c'est-à-dire la façon dont on se déplace, la façon dont on mange, la façon dont on communique, etc.
Négawatt parlait de sobriété en 2003, quoi. Donc Négawatt a prouvé que le 100% renouvelable, c'était possible, très bien, mais que c'était qu'il fallait d'abord sobriété et efficacité énergétique. C'est jamais arrivé, en fait. C'est jamais arrivé. L'État a dit, il faut qu'on fasse tant de rénovations, enfin, il faut refaire l'étude des différentes programmations, stratégies, etc., machin. On l'a jamais fait. On n'a jamais rénové à la hauteur de ce qu'étaient nos ambitions au niveau de l'État. Voilà, tout simplement parce qu'il y a d'autres enjeux. Et d'autres enjeux qui sont plus productivistes, quoi. On a préféré mettre l'argent ailleurs. Aujourd'hui, tout l'argent là qu'on voudrait mettre sur les EPR, ça représente une part non négligeable, entre 50 et 100%, suivant comment on regarde, du coût de la rénovation en France. On préfère le mettre sur le nucléaire. C'est quoi le problème? C'est qu'à un moment, il manque un trait d'union. Et du coup, ce trait d'union, c'est ça. C'est la réappropriation d'énergie. Si c'est les gens qui décident, si c'est les gens qui font énergie donnante et qui produisent leur propre énergie, et surtout que ça soit accessible à tout le monde, inclusif en termes de gens, et notamment vis-à-vis des plus précaires, ben là, on va retrouver du pouvoir. Et là, les gens vont retrouver des moyens d'avoir une consommation raisonnable. Et puis, il ne faut pas se leurrer. La problématique aujourd'hui autour de la consommation excessive d'énergie, ce n'est pas les personnes qui vivent dans des logements sociaux. Le gros de la surconsommation, elle est plutôt du côté des entreprises, elle est plutôt du côté des multinationales, elle est plutôt du côté des personnes qui ont énormément d'argent. Et donc, c'est surtout ces personnes-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de les rendre inopérantes? Eh bien, on fait par nous-mêmes. Et on arrête d'être dépendant de ces personnes-là. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de tester à l'énergie de l'autre. Sur un domaine aussi complexe que l'énergie, où on nous a autant déconnectés, où ça fait des années qu'on ne nous demande pas notre avis, à commencer par le programme nucléaire dans les années 70, est-ce qu'on va réussir, ça je ne sais pas, on se revoit d'ici quelques années, on verra, est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que les gens s'impliquent et fassent par elles et par eux-mêmes? On va tester.
Stéphie.
Le fait d'avoir ce moulin, on a un groupe qu'on appelle les moulinistes qui viennent en prendre soin, donc régulièrement, surtout en automne, comme il y a beaucoup de feuilles, il faut dégriller, donc avec des grands râteaux, dégriller le... Enfin, ce qu'on appelle dégriller, c'est enlever les feuilles de la grille, en fait, simplement, enlever tous les branchages, etc. Et là, on a une petite jauge qui permet de dire, bah, en fait, le fait d'avoir dégrillé, on passe par exemple d'une petite production à une production beaucoup plus importante parce qu'on a un débit qui a été amélioré dans le moulin. Et du coup, c'est ultra concret, quoi. On voit tout de suite l'impact que ça va avoir, le fait d'entretenir ce moulin. Et donc, amener du concret là-dedans, c'est aussi se rendre compte, plus concrètement, donc, de la production d'énergie, des ressources qu'on a sur le territoire. Et donc, vis-à-vis de ça, de se dire, ah ouais, c'est-à-dire que si je consomme beaucoup plus que ce que produit le moulin qui est à côté de chez moi, c'est pas très logique, quoi. Il faut adapter aussi notre consommation à nos ressources et à ce qu'on peut produire concrètement. En fait, ça intéresse. Et on remarque, quand on fait des visites du moulin, eh ben, y a plein de gens qui sont intéressés. En décembre, là, on a eu énormément de personnes qui sont venues visiter. Et on a un peu cette idée reçue que l'énergie, ça n'intéresse personne. Eh ben, en fait, si, quand on ramène un peu du concret et de la convivialité, on avait fait aussi, pendant notre visite... du café et des crêpes, donc forcément ça donne aussi plus envie, mais le fait de faire ça ensemble et en convivialité, eh ben, on voit que les gens sont très intéressés et du coup on apprend tous un peu comment ça fonctionne.
C'est quoi le modèle économique d'énergie de Nantes ?
Pas de profit, pas d'actionnaire, pas de lucrativité. Il y a simplement un bout de la facture qui vient alimenter les frais de fonctionnement de l'association en toute transparence, donc grâce à ce qu'on appelle les tunistes, c'est notre petit nom affectueux, parce qu'on fonctionne par rôle. Les tunistes, leur rôle, c'est de gérer leur comptabilité. Typiquement, chaque mois, un souscripteur ou une souscriptrice d'EDN contribue à l'association à hauteur de 5 à 7 euros par mois pour les frais de fonctionnement. On n'a pas de salariés à EDN, c'est tout le monde y contribue par son temps. Les personnes qui y contribuent le plus ont un petit peu de rétribution, mais ça se fait plutôt sur des logiques d'engagement volontaire en fonction de notre disponibilité, ce qui fait que pour la plupart d'entre nous, on a d'autres activités à côté. Et du coup, cet argent, ça va servir ensuite pour mettre en place les futures actions collectives, déjà pour vivre au quotidien, et mettre en place les futures actions collectives qui vont être réalisées par l'association. Donc avant ça, il faut atteindre une certaine forme d'équilibre. Chez nous, il est très bas. Dès qu'on aura, aujourd'hui, on a à peu près 400 adhérentes et adhérents. Quand on arrive à 1000, on couvre nos coûts. Et le reste va servir à des futures actions. Soit de mobilisation, soit d'entraide, soit de futurs moyens de production, d'autres moulins ou d'autres types d'installations plus décentralisées, qu'elles soient solaires ou autres, pour pouvoir aller toujours vers cette logique d'autonomie. J'aime bien aussi présenter EDN comme un moyen de repousser l'interface entre nous et les logiques de marché. Finalement, une facture, aujourd'hui, on est obligé de négocier tout dans nos vies. On est obligé de négocier le prix de notre énergie en regardant différents fournisseurs. C'est partout. Du coup, on individualise les gens qui sont bien souvent en galère et dans difficulté pour savoir où est-ce que je vais. Et quelque part, avec EDN, on essaye de recollectiviser tout ça dans l'énergie. En disant, collectivement, on va essayer de prendre ça en charge pour faire plus poids. Et ça se traduit par nos propres négociations pour notre approvisionnement en énergie, par nos propres moyens de production et par surtout de l'entraide. L'idée derrière la réappropriation, c'est d'arrêter de se sentir seul, mais de faire en sorte qu'on aille les uns les unes chez les autres pour essayer de s'aider, pour consommer moins, pour avoir des aides, et puis aller de temps en temps au moulin pour justement produire ces quelques kilowattheures dont on a besoin.
Nantes, le quartier du château.
Quand il y a eu la tempête, là, il y a 2-3 jours, là, mes fenêtres se sont ouvertes toutes seules. Moi, l'eau rentre dans mon appart.
Valérie.
Il y a 3 pièces dans mon appart, c'est inondé. Enfin, inondé. Il y a quand même pas mal. Ça fait une belle flaque d'eau, en fait, dans mon appart, en fait. Il y a 3-4 ans, j'ai dû refaire mon parquet. Et ça recommence, quoi. Tant qu'on ne changera pas les joints de mes fenêtres, l'eau continuera à rentrer. Une fois, je suis allée chez un locataire, en fait. Et sa salle de bain, c'est rempli de moisissures, quoi. Il a eu des problèmes pulmonaires. Et c'est pareil, il avait fait constater, il n'y a rien eu, en fait. Donc là, il vit toujours dans le même appartement et la moisissure est toujours dans la salle de bain. Mais le plafond est rempli, hein. Les murs, c'est plus blanc, hein. c'est vert, c'est marron, enfin, c'est moisi de partout, quoi. Il y a l'odeur, dès qu'on rentre dans l'appartement, il y a l'odeur qui rentre directement au nez, quoi.
Vous habitez depuis longtemps ici, ça a évolué comment, la rénovation thermique, énergétique des logements ?
En 2016,
Jeanne,
ils nous ont dit, on va rénover, ça fait 20 ans qu'on n'a rien fait, on va s'occuper de vous, on va rénover les bâtiments. Sur 4, il y en a 2 de rénovés aujourd'hui. Et nous, on va encore attendre.
Qu'est-ce que ça change pour vous, le fait de faire appel à Énergie de Nantes ou...
Pour l'instant, c'est encore le début de la mobilisation. Mais l'idée, c'est que aussi de faire déjà connaître ces problèmes-là.
Stéphie.
Et aussi de venir à plusieurs. C'est-à-dire que en étant un collectif, on est plus fort que seul dans son coin. Parce que par exemple, Valérie va voir son bailleur, il ne va pas l'écouter et c'est plus facile de faire taire une personne isolée. Alors que quand on est un groupe et qu'on dit, mais en fait, ce n'est pas juste les fenêtres de Valérie, mais en fait, c'est toutes les fenêtres du même bâtiment qui demandent à être rénovées et on a telle personne qui ont des problèmes de santé à cause de ça, etc. Là, on a beaucoup plus de force et on arrive à obtenir des choses. Donc c'est ça l'intérêt, je pense, d'un appui d'une association, voilà.
On constitue un rapport de force avec le marché, mais aussi les institutions étatiques de l'énergie telles qu'elles existent aujourd'hui, quoi. Puisque, en fait, quand on vote, on n'est pas franchement écouté. Puisque au quotidien, on subit avec l'inflation des tarifs qui font qu'augmenter. Bah, toute la question au moment de la création d'EDN, c'est comment est-ce qu'on construit un rapport de force à même de faire en sorte de se protéger. Donc en étant fournisseur d'énergie, et d'ailleurs on a un agrément du ministère de l'énergie pour l'être, ça nous a pris 2 ans pour l'avoir, mais on a fini par l'avoir, puisqu'on prouvait systématiquement que ce qu'on faisait tenait la route et était viable, et qu'il n'y avait pas de raison de nous refuser de l'avoir. Ce rapport de force, il passe par du nombre. Nous, notre objectif, c'est quand même d'être plusieurs milliers. Il passe par le fait de faire en sorte que d'autres énergies de quelque part existent un jour, soit sous la forme de fournisseurs, soit sous d'autres formes. Peut-être qu'il y a d'autres formes pour faire commun autour de l'énergie, et que ces initiatives discutent entre elles. Et ça a 2 objectifs, créer une forme de contre-pouvoir, de contre-institution, où en fait les gens vont préférer venir là, et parce que c'est là que ça sera intéressant, c'est là où on pourra avoir une énergie renouvelable à un prix accessible, mais on ne fournit pas tout le monde. Nous, on fournit uniquement des particuliers et des professionnels qui sont en accord avec notre raison d'être. Donc c'est ça, à un moment, si on s'imagine, d'ici quelques années, il y a des énergies d'un peu partout qui existent et qui sont suffisamment puissants pour répondre aux besoins des gens en étant plus intéressants, on voit qu'il y a un modèle qui peut supplanter l'autre. Ça fait plus sens de tout point de vue, écologiquement, socialement et organisationnellement.
Moi, je suis dans l'équipe des moulinistes un petit peu et j'adore venir au moulin parce qu'en fait, j'habite en ville et là, je fais 1 quart d'heure de train, je suis au bord de l'eau et du coup, il y a quelque chose de très satisfaisant déjà parce que je suis dans un environnement, un cadre que je trouve hyper agréable et puis en plus, au bout d'une heure ici, à avoir enlevé des feuilles, d'une part, je me suis vidé la tête, j'ai pris l'air, j'ai entendu des oiseaux et tout ça. D'autre part, j'ai contribué à ce que la production elle soit vachement plus intéressante et ça m'a pris 2 heures. Et je l'ai fait avec des gens, donc en plus ça rend ça vachement humain. Et se réapproprier des choses qui sont d'une part agréables, parce que je suis pas sûre que les gens qui travaillent dans des centrales ou qui vont extraire du pétrole trouvent ça particulièrement agréable. Voilà, quand on vient, on est ensemble et ça crée du lien aussi bien avec des gens de Nantes que des personnes d'à côté. En décembre, l'événement dont tu parlais, il y a plein de gens qui sont venus d'ici, quoi. Et des gens, notamment, qui ne s'intéressent pas forcément à l'énergie, d'ailleurs. Qui ne sont pas forcément hyper écolos, qui n'ont pas forcément envie de faire la révolution énergétique, mais qui trouvent que avoir un moyen de production à côté de chez soi, c'est cool, c'est palpable, et ça donne du sens, en fait, aux infrastructures qu'on voit près de chez soi, quoi.
Avec Yves Marignac, Ange Potin, François Jarige, Fanny Lopez, Régis Contreau, Stéphie Kerzulek, Moira Andreu, Valérie et Jeanne. Prise de son, Johanna Gabric, Nicolas Mathias. Musique, Jefferson Lambeil. Mixage, Manuel Couturier. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marivonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Transition énergétique, éteindre un feu hors de contrôle, épisode 3, se réapproprier l'énergie. Un documentaire de Tao Favre, réalisé par Gaël Gilles. Retrouvez-nous sur franceculture.fr et pour le podcast, c'est sur l'appli Radio France.